On continue notre série dans cette épître aux Romains. Donc, je vais lire le texte pour aujourd'hui, c'est dans Romains 6, à partir du verset 15, donc de 15 à 23. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et ont été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, aussi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je l'ai lu tel quel. Maintenant, pour bien comprendre, d'abord on va le décortiquer. Enfin, d'abord, on va voir le contexte, je rappelle ce qu'on a déjà vu, et puis on va décortiquer un peu le texte. Donc, petit rappel, parce qu'il faut toujours se dire que même si on prend du temps pour regarder cette épître, il faut savoir ce qui a précédé. Et on a vu au chapitre 1 à 4 que l'évangile, on peut le résumer en deux phrases. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc le péché nous sépare de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous, êtres humains séparés de Dieu, nous sommes réconciliés, rachetés, en relation de nouveau avec Dieu. C'est la bonne nouvelle. C'est des chapitres 1 à 4. On a bien expliqué comment on peut être justifié, ça veut dire déclaré juste. Comme si c'est un tribunal. On déclare juste, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Jésus à payer nos fautes en mourant à la croix. Ensuite, on a vu le chapitre 5. Ce sont les deux fruits de la justification. D'une part, la réconciliation avec Dieu, d'ennemis que nous étions. Nous sommes réconciliés avec lui. Et d'autre part, que nous avons, qui n'est pas conséquent, la vie éternelle. Ça, c'est le chapitre 5. Maintenant, on passe au chapitre 6. Et au chapitre 6, Paul répond à une question. On peut remonter au verset 1. Il répond à la question que certains critiques lui adressaient. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça veut dire, dans ce sens, le salut est trop facile. Vous faites ce que vous voulez. Vous demandez pardon, Dieu pardonne, vous recommencez, c'est trop facile. Ça, c'est le regard de ceux qui pensent que la religion, c'est le moyen de se racheter. Donc c'est en fait tout ce qui est dit dans tous les livres saints, là, malgré tout, Dieu va nous sauver. Et ils trouvent que la grâce, qui veut dire le don gratuit de Dieu, est presque immorale, parce que ça veut dire on fait ce qu'on veut, on est quand même sauvé. Mais Paul dit, mais pas du tout, loin de là, tout au contraire, c'est pas ça. Et il donne deux réponses. La première réponse que nous avons vue, il y a 3 semaines, je pense, c'est le sens du baptême. Parce qu'il explique que le baptême, c'est quoi? Il dit au verset 3, donc, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Le baptême qui symbolise, on peut appeler la conversion c'est quoi? C'est de dire, j'ai une ancienne vie et j'ai dit non, et maintenant j'ai une nouvelle vie. Et le baptême symbolise ça parce qu'en plongeant quelqu'un sous l'eau, c'est comme s'il est enseveli et son ancienne vie est finie, il vit une vie nouvelle. Et c'est pour cela que ce n'est pas facile, il y a une vie nouvelle. On ne la vit pas parfaitement, mais on le désire maintenant de vivre pour Dieu. Donc on va dire, ah je pêche et Dieu pardonne. Si je dis je pêche, c'est avec une conscience lourde, c'est avec une certaine douleur, parce qu'on est conscient de ça. Le pardon est là, mais ce n'est pas, oh, je n'ai qu'à faire ce que je veux et Dieu pardonne. Donc la première raison, et ça qu'on a vu il y a 3 semaines. Maintenant, ce que nous avons vu dans le texte d'aujourd'hui, c'est le deuxième raisonnement, c'est que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes devenus esclaves de Dieu. C'est pour cela que nous allons relire ce texte petit à petit et comprendre le raisonnement de l'apôtre Paul pour dire, nous avons commencé une nouvelle vie, vous n'êtes plus esclaves du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Alors, le verset 15, qui est en fait la reprise du verset 1, dit un peu autrement. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Et la même réponse, loin de là. Et donc, cette fois-ci, comme j'ai dit, il va parler de l'esclavage et en fait, il n'introduit rien de nouveau pour les Romains, parce que dans les deux cas, il dit, ne savez-vous pas? D'abord, le verset 3, ne savez-vous pas que nous tous, et puis il parle du baptême, et cette fois-ci, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave, donc il rappelle en quelque sorte, il dit, ne savez-vous pas? Ce n'est pas le cas que la conversion ne change rien. On commence une nouvelle vie. Donc, il va parler de l'esclavage. Et le verset 16, la première partie, il donne une sorte de définition de l'esclavage. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc, ça veut dire qu'un esclave doit obéir à son maître en toutes choses. J'ouvre une toute petite parenthèse parce que je suis assez sensible à cela. L'esclavage existait dans l'Antiquité, comme dans tout l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, dans l'Empire romain. Il faut éliminer un peu de sa pensée cet esclavage horrible qui a eu lieu vers le 17e, 18e siècle. Des esclaves transportés de l'Afrique aux Antilles, aux États-Unis, etc. C'était absolument affreux. L'esclavage dans l'Antiquité n'était pas la même horreur. Les gens n'étaient pas libres, mais ils faisaient partie de la maison quelque part. C'était un peu comme du personnel de maison, des salariés en quelque sorte, sauf qu'ils n'avaient pas de salaire. Ils étaient nourris, blanchis, et ils travaillaient pour le maître. Parce qu'il n'y avait pas le même système, si on veut, d'emploi salarié que nous avons aujourd'hui. Ça ne voulait pas dire que la personne était libre. Donc, bien sûr, on a enlevé la liberté à la personne, mais ce n'était pas l'esclavage avec autant de violence, etc., qu'on avait plus tard. Mais n'empêche, on doit obéir au maître. Et il n'y a que deux choses qui nous libèrent de cela, c'est la mort, ou quand on change, ou bien on change de maître. Et là, on revient à ces deux parties des Romains, chapitre 6. Parce que c'est la mort, qu'on a vu au verset 1, de 1 à 14, symbolisé par le baptême, qui a libéré la personne. Et puis, le raisonnement à partir du verset 16, c'est que vous n'êtes plus esclave du péché, vous êtes esclave de Dieu. Maintenant, il faut savoir ce que ça veut dire. Et quelque part, je pense que l'esclavage, d'ailleurs il va le dire, l'esclavage de Dieu est une vraie liberté, en quelque sorte. Hein. On n'a pas tellement parlé de cela cette année, mais aujourd'hui c'est quand même le dimanche de l'Église persécutée. Et puis, ça me rappelle toujours l'histoire que j'ai entendue dans ce contexte de quelqu'un qui était en prison pour sa foi et qui disait au geôlier, en quelque sorte, moi je suis plus libre à l'intérieur de ma cellule que vous à l'extérieur, parce que moi je suis libre, je suis en Christ. Donc ça c'est un autre raisonnement que nous avons. Donc voilà, le raisonnement donc, que l'on va voir maintenant à partir de ce verset 16, c'est que nous avons changé de maître. Et quel est cet enjeu? Quel est cet enjeu? Jésus le dit deux fois d'ailleurs, le premier texte, c'est Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est Jésus qui l'a déjà dit, et ça on va voir dans Romains 6. À partir du moment où on se livre au péché, on n'est plus libre. Parce que ce qu'on a fait une fois, on va la faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on devient esclave. Et l'autre verset que je vais citer, c'est dans Matthieu 6, le verset 24. Cette fois-ci, Jésus, en parlant de l'esclavage, dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui est en fait la richesse ou l'argent personnifié, dans ce contexte-là. Donc, on a un choix. Donc, quel maître allons-nous servir ? Alors, on va d'abord regarder les versets 16 à 18. Et dans ces versets, on voit d'abord qu'il y a une grande différence par rapport aux conséquences de notre choix. Parce que le péché mène à la mort et l'obéissance à Dieu mène à la justice. C'est assez intéressant parce qu'on s'attend à un parallèle, on ne l'a pas tout à fait en fait ici. Ça va venir plus tard, parce qu'on va dire si c'est la mort, alors c'est l'autre, c'est la vie. Non, mais dans ces versets, Paul dit que d'une part, plus on va pécher et devenir esclave du péché, ça va mener à la mort à la fin. Alors que plus on obéit à Dieu, et plus en quelque sorte, on va dans la direction de la justice. Je lis la fin du verset 16. Donc, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc je vais devenir à seul, revenir à ça tout à l'heure pour expliquer ce que ça veut dire obéir à la règle de la doctrine. Et Paul ajoute que maintenant que nous sommes affranchis ou libérés du péché, on devient esclave de la justice. C'est mieux. Donc voilà, c'est la première chose. La conséquence, la mort ou la justice. Et il dit, d'ailleurs au verset 19, je parle à la manière des hommes. Donc c'est une analogie. Hein, donc il essaie d'expliquer les choses pour qu'on comprenne. Donc ça, c'est la différence dans les conséquences, dans l'aboutissement. Maintenant, au verset 19 à 22, on a une grande différence dans les ordres donnés par le maître. D'abord, si on est esclave du péché, qu'est-ce qui se passe ? Il nous pousse vers l'impureté et l'iniquité qui mène à l'iniquité et qui cela mène à la mort. J'ai vérifié dans le texte en grec pour être sûr, hein, et il répète. Donc, quand on se livre à l'iniquité, ça mène à l'iniquité. C'est ce qui est dit. Et cela mène à la mort. Donc, je lis le verset 19. Vous aviez... Donc auparavant, livrez-vous comme esclave à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Que je lis dans le sommaire qui dit « Vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée. » Et il ajoute un petit peu plus loin au verset 20 et 21 que « Aujourd'hui, quand vous y pensez, on peut rougir de honte, en quelque sorte, de ce que l'on faisait avant d'être chrétien. Ou, l'autre solution, si on est esclave de Dieu, cela mène à la justice, donc des actes de vie juste, et cela mène à une vie sainte. Donc là, je traduis, selon le sommaire, une vie juste vers une vie sainte. Ça, c'est aussi le verset 19. Avant, c'était pour livrer vos membres comme esclaves à l'impureté. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, c'est un impératif, c'est un ordre. Ce n'est pas une description. Je fais la différence dans la Bible. Si c'était à l'indicatif, on va dire le chrétien livre toujours ses membres comme esclaves à la justice, ce ne serait pas totalement vrai, parce que on a encore notre vieille nature qui s'accroche. Mais comme impératif, c'est bien. Maintenant, vous avez fait ça, mais maintenant, il faut faire ceci. Faites cela. Livrez vos membres à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, la fin de cette histoire, si on veut, c'est le verset 23 qui résume bien les choses en disant que le salaire du péché, c'est la mort, alors que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Le contraste, bien entendu, est entre le fait que le péché donne un salaire. Un salaire, c'est ce que l'on mérite, donc à la fin du mois de travail. Ce salaire, c'est la mort. Alors que le don gratuit, la grâce de Dieu, donne la vie éternelle. Et quoi que l'on dise sur cet esclavage, sur ce désir d'obéissance à Dieu, cela va toujours se construire sur le socle de la grâce de Dieu. On ne s'éloigne jamais de ce socle qui nous donne notre assurance du salut, notre assurance que Dieu nous aime et qu'il nous sauve. Donc maintenant, en conclusion, on peut se poser des questions. Alors, qu'est-ce qui cause ce changement qui fait qu'on change de maître? Je crois qu'il y a deux réponses à cela. La cause première est bien sûr la conversion. C'est toute la première partie du chapitre qui en parle, parce qu'en évoquant le baptême comme signe visible de la conversion, on insiste sur le fait que avant on n'était pas chrétien, on le devient, on passe de son ancienne vie à une nouvelle vie en Christ. Et on la trouve aussi dans cette deuxième partie du chapitre 6, au verset 22, quand Paul écrit que maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc on devient esclave de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On change de maître. Donc c'est ça la cause première de ce changement. Mais le moyen de ce changement, c'est aussi l'enseignement que le jeune chrétien reçoit. Et là, je reviens à ce verset 17, où Paul dit que maintenant, grâce soit rendue à Dieu, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Donc la version du Summer dit, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. C'est donc un enseignement de mise en pratique de la nouvelle vie. Cet enseignement qui était donné aux convertis, donc dans l'Église primitive, et que l'on cherche toujours à donner aujourd'hui par toutes les différentes réunions et rencontres de l'Église, parfois par l'enseignement individuel, parfois par l'enseignement collectif. Parce que celui qui se convertit devient disciple, et disciple veut dire un apprenant, un apprenti, donc nous apprenons comment vivre autrement. Avec les années qui passent, je deviens de plus en plus conscient d'une chose, c'est que la vision que l'on a du monde, sa pensée profonde de comment on conçoit le monde, change énormément la façon dont on vit dans ce monde. Je donne un petit exemple pratique. On est devant un problème. Si on ne croit pas en Dieu, les seules ressources pour trouver une réponse à ce problème sont en soi-même ou peut-être avec l'aide de quelqu'un d'autre, des conseils ou je ne sais pas quoi. Alors que le chrétien, son premier réflexe va être, selon 1 Pierre chapitre 5, de décharger sur Dieu de tous ses soucis. Parce qu'il sait qu'il a un Père céleste, Abba, Père, un Père céleste qui va prendre soin de lui. Donc je termine avec deux textes qui nous invitent en fait à changer de façon de voir le monde et à vivre dans ce monde. Le premier texte est dans Galates chapitre 5 où à partir du verset 19, Paul fait la différence entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, que le Summer traduit comme étant la façon de vivre de l'homme livré à lui-même, donc qui vit sans Dieu. Et la liste est impressionnante, hein, donc je lis à partir du verset 19 de Galates 5, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Alors que le fruit de l'esprit, une autre façon de vivre, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, nous sommes invités à une toute autre façon de vivre à partir du moment où nous devenons disciples de Jésus-Christ. Et donc, je termine avec un autre texte, c'est dans Philippiens 4, et le verset 8, où il s'agit de nos pensées. Je lis dans la traduction du Summer. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, digne d'approbation et de tout ce qui mérite respect et louange. Nous sommes donc invités à offrir notre vie, nos membres, nos pieds, nos mains, nos oreilles, nos yeux, notre langue. Jacques rappelle que la langue est un tout petit membre, mais qui est difficile à maîtriser, de les offrir à Dieu pour vivre une vie juste, comme ses esclaves ou comme ses serviteurs. Parce que vraiment, il n'y a rien de meilleur que de vivre de cette façon-là. Amen.